Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Nous allons parler aujourd'hui du grand roi, le roi Darius Ier, surnommé le roi des rois. Ces dates, au moins ce que l'on croit savoir de Darius, 522-486 avant Jésus-Christ, son empire, l'empire perse, il y a 2500 ans, mais on oublie souvent qu'il fut aussi pharaon d'Égypte. Et on imagine son palais à Suse somptueux à cause des célèbres frises du Louvre, c'est-à-dire un gigantesque chapiteau à tête de taureau et des briques émaillées alignant des archers richement vêtus et d'inquiétantes figures de lions et de monstres ailés. Des mentions de lui dans la Bible, au livre d'Esther, d'Esdras, de Néhémie, de Daniel et puis évidemment les Perses d'Eschyle et l'Esther de Jean Racine, sans oublier Hérodote, qui en a parlé, mais qui n'était pas contemporain de Darius et qui a d'ailleurs vécu loin de Suse. Bref, beaucoup d'éléments et vous allez voir et en savoir plus. Et vous allez voir que ces éléments vont être peut-être un peu remis en cause par mon invité, l'archéologue Jean Perrault, qui est correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres depuis 1965. Bonjour, monsieur Perrault. Vous vous vantez, mais je le dis positivement, d'être l'un des plus anciens élus de l'Académie.
Bon, il se trouve que c'est le cas, oui.
Vous avez été directeur de recherche honoraire au CNRS, vous étiez entré en 1946, et durant 45 ans, vous avez fouillé de nombreux sites anciens en Palestine, en Turquie, en Iran. Et alors, vous me disiez tout à l'heure que la période de Darius, qui est quand même quelques siècles avant Jésus-Christ, mais pas tant que ça, ce n'est pas tout à fait votre période. Vous êtes un spécialiste de moins 10 000 avant Jésus-Christ, c'est ce que j'ai compris.
Non, ce n'est pas ma période, mais enfin, le hasard des fouilles et des circonstances ont fait qu'en 1967-68, au moment où je prenais la direction de la mission de Suse, l'intérêt du public se portait sur Cyrus, Darius et autres. Et comme Suse avait la réputation tout de même d'être une des capitales, même la capitale de Darius, les visiteurs se faisaient extrêmement nombreux. Les pauvres vestiges qui restaient de son palais, souvent les visiteurs prenaient d'ailleurs notre maison pour le palais de Darius, c'était un petit peu inquiétant. Donc nous avons décidé de faire un effort pour la protection, de prendre des mesures conservatoires pour la protection des ruines. Et il s'est avéré très rapidement que des découvertes très importantes sont apparues et que nous nous sommes trouvés engagés, sans l'avoir cherché, mais engagés dans un programme de fouilles, vraiment, et de recherche sur le fameux palais de Darius, qu'on ne connaissait jusque-là que, au fond, ce que l'on connaissait du palais de Darius, c'était quelques éléments de colonne appartenant à la salle d'assemblée, à ce qu'on appelle la padana, et des murs du palais. Un plan qui n'était pas très lisible ni compréhensible et qui était loin de représenter la totalité vraiment de ce qu'a pu être le complexe architectural de Suse construit par Darius entre 520 et 500.
Donc quand vous avez dirigé cette mission archéologique française à Suse de 1968 à 79, donc un peu plus de 10 ans, vous avez tout de même été fortement soutenu et aidé par les archéologues iraniens.
Oui, absolument.
Vous attachez de l'importance à le dire.
Il a fallu, nous avons lancé là un nouveau programme, nous avons dû faire appel à des chercheurs et aux spécialistes de l'archéologie égyptienne comme Jean Yoyot, qui malheureusement a disparu l'an dernier. Je crois d'ailleurs, nous sommes presque à l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Vraiment, c'était une perte considérable.
Qui était professeur au Collège de France.
Qui était professeur au Collège de France.
Égyptologue.
Égyptologue, oui. Mais qui est venu à Suse lorsque nous avons découvert, en 72, lorsque nous avons découvert cette statue colossale de Darius, qui présente évidemment un intérêt considérable, puisque c'est la seule statue achéménide que l'on connaisse, et en Égypte, qui est la seule, qui est très particulière à la production égyptienne.
Oui, oui, monsieur Yoyot a fait toute une étude justement dans ce livre que je vais citer maintenant, puisque le résultat des 10 années de fouilles que vous avez opérées fait maintenant l'objet d'un superbe album publié par les PUPS, PUPS, c'est-à-dire les presses universitaires de Paris-Sorbonne. Ça a été sorti en février 2010. Ça s'intitule « Le palais de Darius à Suse, une résidence royale sur la route de Persépolis à Babylone » sous la direction de Jean Perrault. C'est un ouvrage collectif. C'est aussi un ouvrage publié sous le haut patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Alors, vous avez coordonné tous les textes. Il y a beaucoup de textes, et dont beaucoup de textes de vous, d'ailleurs, pour passer d'un chapitre à l'autre, j'ai remarqué.
Oui, il aurait
vous avez
été,
beaucoup travaillé.
Il aurait été souhaitable de faire précéder cette publication d'un colloque ou de discussion, de façon à mieux informer certains des collègues qui ne faisaient pas partie de la mission, mais qui sont des spécialistes de la période, de les informer des découvertes que nous avions faites, qui modifient sérieusement tout ce que l'on a pu dire, écrire ou penser de ce palais avant nos découvertes.
Justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que les découvertes archéologiques remettent en question ce que l'on croyait savoir dans la chronologie ou même dans la généalogie de Darius ?
Dans la chronologie, non, puisque bon, les dates de Darius sont fixées de différentes manières. Il a pris le pouvoir en 522, il est mort en 486. Il n'y a pas de discussion sur ces dates. Mais sur le rôle, l'importance et le rôle de Suse, on a souvent, j'ai souvent vu écrit, à peine, disons, promu roi des rois, il se serait précipité à Suse pour y construire sa capitale universelle, ce qui est tout à fait ridicule. Les renseignements que nous avions sur cette période nous viennent essentiellement, les sources littéraires sont d'abord son Hérodote, qui se trompe complètement lorsqu'il fixe à Suse les incidents, même l'assassinat, enfin quelque sorte, de Smerdis, qui était le prédécesseur, qui avait usurpé le pouvoir de Cambyse. Enfin, c'est une longue histoire sur laquelle d'ailleurs il y a beaucoup d'hésitations encore. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Là, une conjuration perse, de nobles perses, a fait appel, ils étaient six, a fait appel à Darius, qui était le gendre de l'un d'eux. Jeune chef, il devait avoir entre 25 et une trentaine d'années, jeune chef charismatique, revenant d'Égypte, où il avait accompagné Cambyse pour la conquête de l'Égypte. Donc on fait appel à Darius pour... essentiellement pour se débarrasser de l'usurpateur, de Gaumata. Bon, il a réussi, il a pris le pouvoir, il s'est imposé par ses qualités, sûrement, et puis, enfin, il s'est imposé, c'est lui qui finalement a pris le pouvoir, mais qui s'est trouvé à 25-30 ans, au maximum, qui s'est trouvé devant le monde, responsable, disons, d'un empire gigantesque qui va du Nil à l'Indus.
Oui, qui couvrait exactement
le monde connu de l'époque.
Pays, le monde connu de l'époque, voilà, y compris l'Égypte.
Une grande diversité ethnique, culturelle, religieuse. Enfin, c'est tout à fait... Comment cet homme seul, au début, a-t-il pu assurer vraiment le contrôle, prendre la maîtrise d'un empire ? Dans quelle mesure l'a-t-il fait ?
Mais l'empire avait été créé, si je puis dire, par Cyrus.
Par Cyrus, oui.
Et par rapport à Darius, ce n'est pas son descendant direct. Alors rentrons un peu dans la généalogie.
Le père de Darius n'était pas roi. Son père était gouverneur d'une province à l'est de la Caspienne. Mais enfin, il est de noble famille perse, en tout cas. Il est à la cour, il accompagne Cambyse en Égypte, joue un rôle apparemment important dès ce moment-là.
Alors, on se souvient que les Perses ont été défaits à Marathon, mais évidemment, ce n'est pas époque.
Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est en 490.
490,
mais c'est
oui.
un incident.
Mais c'est un incident.
Pour les
on
Perses
s'en souvient parce que c'est les Grecs qui l'ont raconté.
Ben bon, bien sûr. Mais pour les Perses de l'époque, vous savez, c'était vraiment... Il y avait des soucis beaucoup plus importants que celui de la Grèce ou de Marathon, qui est vraiment un incident de parcours sans grande importance, qui est magnifié naturellement par les Grecs, par Hérodote, par tout le monde. Enfin,
Darius, donc, vous avez dit qu'il va régner 36 ans et il ne va pas entamer des travaux de construction de son palais tout de suite, mais à peu près une dizaine d'années après
son... plus rapidement que ça. Mais pendant 2 à 3 années, il va se battre. Il y a des révoltes à peu près partout, y compris dans son pays, en Perse, en Médie.
Il n'a pas d'endroit fixe.
Il y a des révoltes très sérieuses. Il aura beaucoup de peine, surtout en Perse et en Médie, à reprendre le contrôle. Et pendant le résultat de ces guerres, de ces batailles, il le raconte justement dans la grande sculpture rupestre de Behistun, où on le représente, bon, le pied sur l'usurpateur, le mage Gaumata, et puis devant 8 rois qu'il a fait prisonniers et exécutés, plus un 9e, le site qui a été récupéré en 519, à la fin, au bout de 3 années de combat. C'est seulement à ce moment-là que l'on peut envisager l'exécution de son projet de construire 2 choses, être dans son pays, de construire à Persépolis, d'établir là le cœur du nationalisme perse. ça n'a jamais été, il n'y a pas de résidence à Persépolis. Il y a une grande salle d'assemblée, et puis ce qu'ont ajouté par la suite ses successeurs, lui-même n'a pas eu le temps même de finir la padanade, il n'a pas dû tailler dans le rocher cette immense plateforme de Persépolis, cette grande terrasse, ça a pris beaucoup de temps, il y a un retard, la construction de Persépolis a un retard manifeste sur celle de Suse. On peut même dire que la padana de Suse a servi de modèle pour celle de Persépolis. Il y a un décalage d'au moins une dizaine d'années entre les deux, et il n'a pas eu le temps de terminer la construction de Persépolis, où il n'y a que l'ébauche également de la trésorerie. Surtout, ce qui est important, ce qui n'a pas toujours été suffisamment noté, c'est qu'à Persépolis même, il y a cette salle d'assemblée. C'était le lieu de réunion des Perses, du peuple perse, à la rigueur des Mèdes et des Élamites, leurs voisins. Mais ça n'a jamais été non plus ce centre, disons, de fêtes du Nouvel An, comme on a voulu le dire, avec tous les peuples de l'Empire venant apporter des présents. Vous savez, il fallait 3 mois pour aller de Sardes, d'Éphèse, de la côte égéenne. Il fallait 3 mois de route pour arriver, ne serait-ce que jusqu'à Suse. Donc si on apportait une douzaine d'eux, elle avait le temps de faire.
Le temps de cuire. Je voudrais que vous nous décriviez un petit peu, justement, le site de Suse. Et l'endroit où sont
le site même de Suse, imaginez une immense plaine dans laquelle il y a une énorme taupinière. Suse a été fondée il y a 4000 au moins avant notre ère. Donc Suse a déjà quelques millénaires. Les ruines se sont accumulées, formant un ensemble de 3 collines principales que les archéologues ont appelées la citadelle, la Padana, la terrasse de la Padana et l'autre la ville royale. Puis après, à partir de la période achéménide, la ville s'est étendue. C'est-à-dire, lorsque les architectes de Darius se sont installés là, ils ont vidé le peu de population qui restait. C'est une période de grand déclin pour Suse. Il n'y a plus ni palais, ni roi. Il n'y a plus toute ville qui est un marché local, régional, qui a encore une activité artisanale. Mais enfin, qui n'a plus du tout d'importance politique. Mais il a choisi d'installer à Suse. Il faut tenir prendre en compte là, le climat. Persépolis est à 1500 mètres d'altitude. Il n'y fait pas chaud du tout pendant l'hiver. Donc, de toute façon, l'économie de cette région, elle est basée sur la transhumance du bétail. C'est-à-dire, pendant l'hiver, on redescend dans la plaine. L'été, au printemps, on monte sur le plateau. Les moutons, les bovins, tout ça, remontent sur le plateau. Donc, on ne peut concevoir cette région-là, ce qu'on appelle les lames, qui est moitié plaine, moitié plateau, parce que son économie est basée sur la transhumance. En tout cas, peu importe, dans la plaine se trouve cette énorme taupinière. On est là au carrefour des routes entre
le commerce Fars et Babylone.
Aussi, par les rivières, on peut remonter du golfe Persique, on peut dire dessus ce qu'il est le port de la Perse.
Au milieu des terres, voilà.
C'est une fenêtre de la Perse, parce que les rivages du golfe Persique à l'est sont très abrupts, il n'y a pas de route facile vers le plateau, il vaut mieux remonter jusqu'à Suse, et là on prend au moins le sens des chaînes, on peut redescendre plus facilement sur le Fars.
C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique, c'est une toute petite parenthèse, que Darius avait fait construire en tant que pharaon d'Égypte un premier canal qui d'Égypte permettait de remonter.
Justement, malgré l'immensité du pays, il a le sens. D'un côté, il envoie une expédition en Inde pour remonter le Lindus, pour conquérir vraiment la conquête de l'Inde. De l'autre côté, il ouvre le canal du Nil à la mer Rouge, canal qui avait déjà été commencé par un pharaon, par Nekao, mais qu'il remet en service, je veux dire, pour que les bateaux puissent aller du Nil jusqu'en Perse. Il l'écrit sur les stèles qui accompagnent le canal, et c'est au bord de ce canal qu'il fera dresser sa statue.
Nous allons marquer une courte pause et retrouver Jean Perrot pour continuer avec lui ce voyage de rêve vers le palais de Darius.
1948-2008, la Déclaration universelle des droits de l'homme a 60 ans. Au cours d'une émission Éclairage, Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, examine en quoi les droits de l'homme se sont à la fois enrichis et obscurcis en 60 ans. La Déclaration universelle des droits de l'homme, une émission Éclairage, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous revenons dans notre studio en compagnie de Jean Perrot, qui est correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et qui vient de faire paraître sous sa direction un magnifique album consacré au palais de Darius à Suse. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Perrot, ces falaises et ces sculptures rupestres de Behistoun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Comment ça se présente?
Bon, c'est à peu près à 60 mètres de hauteur taillé dans le rocher. De la plaine, on ne voit pas grand-chose. Mais récemment, comme des restaurations avaient eu lieu, des échafaudages métalliques avaient été établis, on a donc pu les voir de près. Non, c'est extrêmement important. Le texte, les textes qui accompagnent cela dans les trois langues, n'ont été traduits vers le milieu du 19e siècle par Rawlinson,
un Britannique. Les trois langues, c'est vieux perse.
C'est-à-dire le vieux perse, l'élamite et le babylonien.
Et babylonien.
Et toutes les inscriptions officielles sont toujours écrites dans les trois langues. Maintenant, d'autres langues sont en service, par exemple, pour les relations diplomatiques. C'est l'araméen qui fait l'anglais, en quelque sorte. C'est l'araméen que l'on utilise. On a retrouvé des copies de l'inscription de Behistun jusque dans l'île d'Éléphantine, des textes araméens qui recopient des passages entiers de cette inscription. Elle a donc été diffusée dans la totalité de l'Empire, au moins en ce qui concerne la généalogie de Darius. Il a l'air très préoccupé. Il répète dans toutes ses inscriptions que la royauté lui a été accordée par Ahuramazda. C'est au point de se demander s'il n'en a pas lui-même, il essaie pas lui-même de se persuader de la chose, s'il n'y a pas un léger doute qui plane. Voilà.
Donc il veut asseoir et affirmer sa généalogie. Justement, j'ai cru comprendre en lisant votre livre que les textes pouvaient être traduits selon les traducteurs de différentes manières et que, à votre avis, certains avaient peut-être été mal traduits ou qu'on pouvait traduire autrement, ce qui fait qu'on avait une autre version des choses,
non,
de l'histoire.
Non, je n'ai pas à avoir d'opinion là-dessus, je ne suis pas traducteur de ces textes. Je prends les traductions. Simplement, je constate que chez les traducteurs, il y a parfois des nuances, des traductions, des hésitations. Et comme on a les trois langues, les mêmes choses ne sont pas traduites par des équivalents. Par exemple, pour désigner le mot palais, dans un autre mot, dans une autre langue, c'est assez difficile. Alors, on a eu temps de traduire par palais. Dès qu'on est tombé sur une colonne, les archéologues ont parlé de palais. Je crois qu'il faudrait s'entendre. Ce que l'on avait appelé palais de Suse jusqu'ici représente la résidence et la salle d'assemblée. Alors que nous avons découvert, en dehors, ça couvre ces bâtiments, résidence et salle d'assemblée, couvrent 50 000 mètres carrés. Ils sont sur une terrasse qui fait elle-même, qui repeint 11 hectares. Sur cette terrasse, l'accès à la terrasse est une porte monumentale que nous avons découvert qui fait 40 mètres sur 30. On accède à la terrasse de la Padana par un pont en brique crue, une énorme machine de 40 mètres, de 50 mètres de long, de 10-15 mètres de large. Et on accède à l'enceinte, disons en quelque sorte, du complexe palatial par un propylé, par une porte, par un passage qui ressemble beaucoup, disons, au propylé, même de. C'est d'ailleurs. Le temps n'est pas très écarté. Il date de pratiquement de 510 ou de cette période-là. Donc ensuite, pour accéder, l'ensemble des trois collines artificielles anciennes qui ont servi de base représentent 70 hectares qui sont entourés, qui sont fortifiés. On a affaire là à une place forte, pas seulement un palais, qui n'est pas du tout ce palais somptueux dont on a rêvé souvent. C'est d'abord et avant toute chose un endroit, une place fortifiée. Dans les premières années du règne, on peut imaginer que Darius, qui vient de massacrer son prédécesseur, a lui-même quelques inquiétudes sur sa santé, hésite à aller s'installer à Babylone, où il y a un palais, il y a le palais de Nabucodonosor, où il aurait pu. Mais Babylone fait 1000 hectares, le cœur de Babylone fait 1000 hectares, avec une fortification autour sur 11 kilomètres.
Oui,
et une population agitée, qui avait accueilli Cyrus, son ancêtre, qui avait accueilli Cyrus volontiers, parce que pour toutes sortes de raisons politiques ou autres, religieuses, qui avait accueilli Cyrus. Mais enfin, Babylone a toujours été un endroit dangereux pour le jeune roi que était Darius au début de son règne. Il a préféré certainement s'installer à Suse, qui est l'ancienne capitale élamite, qui a un nom à cette époque-là, au VIe siècle. On sait très bien, dans toute l'Antiquité, on a entendu parler de Suse. Pour les Grecs, Suse, c'est les barbares du Sud, c'est les barbares d'Asie. Alors il y a les Perses au Sud, depuis le temps de Cyrus, les Mèdes dans le Nord, puis les Perses au Sud, tout ça, ce sont les barbares d'Asie, tout ça, c'est très, très loin. Lorsqu'on dit Suse, c'est un peu comme nous disons Moscou pour parler de l'Union soviétique ou New York ou Washington.
Oui, c'est une façon de résumer.
Voilà, c'est une sorte de résumé.
Je voudrais que vous redisiez un petit mot aussi de ce Ahuramazda dont vous avez justement dit que Darius voulait absolument affirmer sa royauté en faisant référence à ce dieu. Est-ce qu'il y a eu un changement de dieu entre Cyrus qui avait imposé Mithra et Darius qui impose Ahuramazda ?
Ah oui, Cyrus ne parle pas d'Ahuramazda. Le personnage de Cyrus est étonnant. D'ailleurs, son concept du divin est quelque chose de tout à fait remarquable. D'abord, il n'y a plus de prêtre entre lui et son concept du divin. Gaumata, qui représentait, qui était un mage, c'est-à-dire qui représentait la classe religieuse, a été évincé et toute la classe sacerdotale a été massacrée. Darius a un contact direct avec Ahura Mazda. Il est le lieutenant d'Ahura Mazda sur Terre. Et si vous faites de la peine à Ahura Mazda, c'est lui, Darius, qui vous coupe le nez, les oreilles et se débarrasse de vous.
Donc il ne fait aucune mention de Mithra. Par exemple, dans les inscriptions qui concernent Darius, il n'y a
jamais
de mention.
À la fin du règne, vers lorsque Artaxerxès II, et ça c'est plus de 100 ans après, c'est après 400, l'inscription Artaxerxès II, au fond, le site de Suse, en dehors de la construction de Darius, Suse ne joue pas un rôle important par la suite. Il a été construit par Darius, mais il sert simplement de relais sur la route entre Persépolis et Babylone. Il ne joue pas un rôle politique important. Donc, le site même, le palais, le bord de la terrasse s'est effondré, la salle, il semble que la toiture de l'Apadana est brûlée. Si bien Artaxerxès, qui, pour des raisons qu'on ignore, semble s'être intéressé à Suse, pour moi, pour y passer l'hiver, c'est une sorte de palais d'hiver, mais il y reste beaucoup plus que tous ses prédécesseurs, il a fait des restaurations. Pendant qu'il restaure l'Apadana, il fait établir une salle d'assemblée secondaire dans le lit de la rivière, sachant très bien que c'est un endroit dangereux, qu'il y a des crues, mais enfin bon, comme c'était du provisoire, ça n'a pas d'importance. Donc, mais il laisse une inscription où il dit « J'ai fait en cette Apadana qui avait brûlé, etc. Je l'ai fait reconstruire. » Donc on a pensé que c'est lui, que c'était Artaxerxès qui avait construit ce que l'on voyait encore. En fait, non. C'était l'Apadana et Darius. Il a dû changer. Il est possible que la toiture qui était en bois, des poutres apportées du Liban.
Il n'est pas à côté.
Ce qui est intéressant d'ailleurs à Suse, c'est que nous avons deux traditions architecturales. D'une part, on construit la résidence en briques crues, comme on le fait dans toute la plaine, comme on le fait à Babylone, et ce sont des gens venus de Babylone qui construisent la résidence. Pour ce qui est de la salle d'assemblée, cette grande salle à colonnes, c'est une invention de Darius qui est tout à fait étonnante. Il semble que cet homme, au début de sa carrière, parce qu'il est le seul à avoir construit des apadanas et seulement dans son pays, c'est-à-dire à Suse, bon, parce que les lames, pratiquement, ce sont des cousins très proches. Donc les lames, et à Persépolis, et peut-être avec Ecbatane en Médie. Ses successeurs n'ont pas eu besoin de s'embarrasser, de consulter qui que ce soit. Il semble que pour Darius, il soit important encore de consulter son entourage, au moins la noblesse perse. Donc ces grandes salles d'assemblée, de contact avec le peuple, et il parle dans ses inscriptions toujours, il ne faut pas mécontenter l'armée. Il ne faut pas contenter le... Donc, il y a un
peu
souci...
démocrate, tout de même.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. Un parfum de démocratie.
Un parfum de démocratie. Est-ce qu'il a aussi un parfum de monothéisme, on peut dire ?
Non, oui et non. C'est-à-dire, bon, on n'est pas encore dans le monothéisme. Le monothéisme, il faut attendre encore, disons, au moins encore 200 ans. Il faut attendre. Ce sont les Juifs de Babylone qui, sous l'influence de la Perse, et de l'influence des idées... Le VIe siècle est un siècle étonnant. C'est un des grands tournants, ça marque vraiment une inflexion dans la pensée de l'humanité. Il ne faut pas oublier, c'est le temps bon, de Zoroastre. Là, il y a des discussions, Zoroastre, peut-être est-il plus ancien, mais en tout cas, bon, VIe siècle, et certaines de ses idées sont là. Zoroastre est un indo-européen, etc., mais qui s'est débarrassé, disons, dans la collection de dieux que ces gens apportent avec eux, il en a choisi un. Il a inventé le jugement dernier, il a inventé les anges, etc. Toutes ces nouveautés qui vont passer dans le judaïsme babylonien, puis dans le christianisme. Vous voyez, l'influence de la Perse sur la formation du monothéisme juif est très importante.
C'est un bon sujet
juifs,
à traiter.
Et des juifs. Oui, bien sûr, c'est très dangereux. C'est très... Il faut vraiment pour se risquer sur ce terrain. Je sais que André Caco s'intéressait énormément à cette question, vraiment beaucoup de gens. C'est vraiment passionnant. Dans quelle mesure, lorsque Cyrus renvoie les juifs de Babylone, les autorise à rentrer chez eux, à reconstruire leur temple, pour eux, il est le oint du Seigneur, il est le Messie. Dans la Bible, Cyrus est le Messie. Pour eux, il a sauvé le peuple, il a autorisé la reconstruction du temple de Jérusalem, et il leur dit, bon, retournez là-bas et priez pour moi. Mais il fait la même chose avec tous les peuples déplacés et avec toutes les villes qui avaient été ramassées par ses prédécesseurs, il les renvoie à chacun. Au fond, ça dépend, c'est le système politique qui a permis cette espèce de fédération, qui a permis de tenir ensemble cet immense empire. C'était de laisser les gens vivre chez eux, tranquilles, comme ils avaient l'habitude de le faire. On leur colle une garnison, on leur colle un général et un trésorier. On leur dit, pour vous, ce sera temps. Alors, si vous êtes sages et tranquilles, si vous payez ce que vous devez payer, tout va bien. On vous protège.
Donc si peut-être on devrait réfléchir alors à de cette ancienne forme. Je voudrais revenir aussi sur cette immense statue qui a donc été découverte le 21 décembre 1972. C'est la découverte de la statue colossale de Darius qui a été dégagée. Et cette statue a la particularité de présenter des inscriptions cunéiformes. Que disent ces inscriptions ?
Alors, pas que, justement, elle
pas
présente...
cunéiformes.
Non, elle présente une inscription cunéiforme, il y a eu un malentendu. Là, je crois qu'il faut corriger. J'en ai touché un mot, vraiment, à mes collègues, à François Vallat, qui est notre spécialiste sur ces questions. Lorsqu'on a trouvé la statue, bon, elle porte d'un côté plusieurs inscriptions en hiéroglyphes et une inscription, trois langues, en cunéiforme. Bon, l'inscription en hiéroglyphe a été établie, c'est ce qu'on appelle l'éloge royal, elle porte sur les plis de la robe. Les lettrés, les prêtres égyptiens, non seulement reconnaissent la légitimité de Darius comme pharaon, il est d'ailleurs le deuxième pharaon, ce Cambyse était le premier, il est le deuxième pharaon de la 27e dynastie. Pour les Égyptiens, non seulement ils reconnaissent sa légitimité, mais en plus, ils ont toujours rêvé d'un pharaon qui serait un pharaon d'un peu plus que de l'Égypte.
Maître du monde connu, serait, oui.
Voilà. Alors là, pour une fois, ils sont servis. Leur pharaon est maître du monde. Et ils en rajoutent un peu dans l'éloge. C'est ce que Jean Lyot a bien montré et souligné.
Absolument.
Cette importance de donner, pour les prêtres égyptiens, vraiment, la relation, la connivence entre Darius et les prêtres égyptiens est tout à fait surprenante. D'autant plus que sa relation, lui, il a éliminé en quelque sorte la classe sacerdotale dans son propre pays. Il entretient une relation directe avec Ahura Mazda, son concept à lui, du divin, qui est une idée qui a l'air d'être à lui, parce que les peuples de tous les pays de l'Empire continuent à pratiquer leur religion, qui d'ailleurs est soutenue. Ils reçoivent, d'après les tablettes de Persépolis, qui sont parfaitement claires là-dessus, chaque groupe ethnique reçoit une aide de l'État, en quelque sorte, pour sa religion, pour ses sacrifices, pour ses dieux. Il n'y a pas de modification profonde. Mais il, à cette époque-là, sur l'ensemble du Moyen-Orient, il y a des courants d'idées qui sont là incontestablement. C'est Confucius en Inde, c'est le Bouddha, tout ça au VIe siècle. C'est Pythagore, Ézéchiel. Et sur le plan politique, des gens comme Cyrus et Darius, qui sont vraiment novateurs, qui apportent vraiment des choses nouvelles. On a l'impression, parfois, entre Pythagore et Confucius, sur certains points, on a l'impression qu'ils ont échangé des SMS. J'exagère un tout petit peu,
mais
il y a des
de
courants
pensée,
d'idées, il y a un grand changement, il y a une inflexion décisive dans l'histoire de la pensée humaine. C'est incontestable. Et Darius, vraiment, reflète cette situation.
Alors, je ne saurais que recommander, justement, dans ce livre, Le Palais de Darius à Suse, que vous avez co-dirigé et que vous publiez, qui est publié par les éditions PUPS, les presses universitaires de Paris-Sorbonne, de lire ce chapitre, justement, de M. Jean Yoyot, où il donne énormément de détails sur la statue de Darius, qui a été exécutée en Égypte, et il en donne des preuves de par la pierre que l'on trouve, une pierre grise particulière que l'on trouve dans un endroit particulier de l'Égypte, etc. Une statue qui mesure 3,50 m de haut. Il manque le haut, mais enfin tout de même, il y a au moins 2,46 m conservés, qui fait la gloire du musée archéologique de Téhéran aujourd'hui. Et donc c'est un chapitre extrêmement intéressant et il étudie aussi les plis de la robe. Il nous a fait rêver avec les plis de la robe. Je trouve que c'est très joli. Voilà, donc ça c'est très important. Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre la restauration d'un site comme Suse et sa reconstitution? Parce qu'il y a beaucoup de projections, évidemment, faites par ordinateur, de reconstitution.
Je crois qu'on se faisait une fausse idée du palais. Ce palais est construit, la résidence, en tout cas, est construit, d'autres bâtiments également, sauf à l'exception de la grande salle d'assemblée, de la Padana, construit en briques crues.
Oui.
Alors, de la brique crue, on ne peut pas faire n'importe quoi avec de la brique crue. Ça impose des formes, ça impose
des hauteurs, de toits, par exemple.
Des voûtes. Et pour que ces voûtes ne s'effondrent pas, il faut que les murs soient stables. Alors imaginez que, en ce qui concerne les murs de briques crues, bon, déjà le problème est important parce qu'ils ont plusieurs mètres d'épaisseur et ils sont souvent très hauts, à la salle de hypostyle, à la salle d'assemblée. Les colonnes ont 20 mètres de haut. Ces colonnes pèsent au moins 50 tonnes chacune. Vous allez poser ça sur une taupinière, en quelque sorte, sur des terres molles, ce qui posait un problème énorme.
Oui, ça va s'effondrer.
Et pour les murs qui ont eux aussi qui ont 5 mètres de large à la base et 20 mètres de haut, en briques crues, là aussi il y a un problème. Donc, du point de vue technique, la grande nouveauté, et Darius lui-même en parle dans ses inscriptions, On a creusé sur ces collines artificielles, qui sont des débris archéologiques empilés sur 30 mètres de haut, on a creusé des tranchées jusqu'à 20 mètres de profondeur et plus, qu'on a remplies de gravier. Sur ces graviers, on a posé deux assises de briques cuites comme fondation, et sur ces assises de briques cuites s'élèvent les murs de briques crues. Les fameuses frises de briques glacurées, comme émaillées, comme disent les
on
gens,
voit au Louvre, bon, oui.
servent à protéger, dans les cours, à protéger la base des murs contre la pluie. Elles sont pratiques, ça n'est pas naturellement décoratif. Dans toute la Mésopotamie, dans les palais, les murs sont toujours protégés, ou par des pierres, ou dans l'occurrence, comme il n'y a pas de pierres dans la région de Suse, c'est ça le problème, les pierres, il a fallu les apporter pour les bases de colonnes de 50 km. Il a fallu rouler ces blocs énormes sur 50 km.
Pas de pierre, pas de bois.
Pas de pierre et pas de bois. Donc on a là une tradition architecturale qui vient s'appliquer dans une zone, dans un environnement qui est tout à fait nouveau pour elle. Donc du point de vue technique, il y a là un véritable exploit que Darius note lui-même dans ses inscriptions. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On a donc à la fois donc, le palais construit en briques crues par des Babyloniens, et puis la salle d'audience, la grande salle, construite par des gens venus du plateau, parmi lesquels il y a beaucoup de Grecs, des Ioniens, des gens de la plaine, sont eux qui les premiers taillent des colonnes. Elles sont lisses, encore relativement courtes à Passargade, pour Cyrus, mais là, alors, on s'élance, c'est parmi les plus hautes colonnes qu'on a jamais fait au Moyen-Orient. Elles ont 20 mètres de haut. Le chapiteau, à lui tout seul, a 8 mètres de haut. Il est en trois éléments. Vous n'avez au Louvre que les deux éléments supérieurs. La partie avec les têtes de taureau, pour que porte les poutres ont 75 cm de diamètre. On les a apportées du Liban, il n'y a pas de bois. Il a fallu apporter ces poutres du Liban, les flotter sur l'Euphrate, etc., jusqu'à Babylone, puis les transporter jusqu'à Suse.
C'est un, on renonce à rien, oui.
Oui, oui.
On ne recule devant aucun effort.
Oui, mais enfin bon, il raconte en détail qui a fait quoi, et c'est extrêmement intéressant. Les inscriptions de Darius se lisent avec beaucoup d'intérêt. Sont suffisamment traduites, et il écrit beaucoup. Il traduit. Il est le premier à écrire. Avant lui, Cyrus, nous n'avons pratiquement rien de Cyrus, mais Darius a écrit beaucoup. Non seulement il y a les grands textes de Behistun, mais à Suse, chaque bâtiment a son inscription. La porte El Propylé, qui ont des inscriptions de Xerxès, disant, mais ceci est la porte que mon père a construit,
voilà,
et sur l'autre,
fils,
l'autre
oui.
mon père a construit. Donc ça a été construit par Darius. Et la statue a été rapportée d'Égypte en 486, après la mort de Darius. Xerxès, qui allait là-bas pour mater une rébellion, a pensé que cette statue au bord du canal risquait de subir un mauvais sort et a décidé de la mettre sur un bateau et de la rapporter en Suse où il l'adresse à la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il fait graver, alors que la statue est encore horizontale, encore couchée, qu'il fait graver l'inscription cunéiforme de la statue où il dit « Le roi Darius a fait faire cette statue en Égypte pour que tous ceux qui la verront à l'avenir sachent que l'homme perse
tient l'Égypte. » Voilà.
Bon, Darius n'aurait jamais lui-même écrit une chose pareille, étant donné ses relations avec les Égyptiens.
Absolument. En tout cas, vous pensez, Monsieur Perrault, que toutes les fouilles qui ont été menées durant ces 10 années, entre 69 et 79, elles ont modifié, elles ont donné une vision plus juste de l'histoire de Darius.
Ben, je pense elles apportent une page supplémentaire dans l'histoire de l'Iran. Je crois que les Iraniens le ressentent bien de cette façon. C'est une période que l'on n'arrivait pas à détacher vraiment de l'ensemble. On mélange un petit peu les qualités de tous les rois. Et là, pour la première fois, on peut séparer. On est encore dans la phase formative de la civilisation et de la culture achéménide. On a là, à Suse, vraiment la possibilité. On a un palais original, de manière très, avec des précisions extrêmement intéressantes, du point de vue architectural, c'est extrêmement intéressant, un palais qui est bien daté, que l'on peut comparer avec ce qui a existé précédemment à Passargade, avec Persépolis, où on commence seulement à construire, où on n'a pas encore construit. Et dans l'ornement, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ornementation du palais de Darius à Suse, les constructeurs babyloniens ornent les frises avec les motifs traditionnels, c'est-à-dire avec des taureaux ailés, avec des griffons, avec des figures de ce genre. Apparemment, ça ne correspond plus à l'idéologie de Darius qui s'affirme dans les années qui suivent, et c'est lui qui, pour la première fois, va remplacer ces monstres mythologiques par des personnages. Ce ne sont pas des archers, des gardes ou les immortels comme on le raconte, tant pis pour les immortels, ce sont, je pense...
Des vivants, des êtres humains vivants.
C'est la noblesse locale, régionale, qui s'est ralliée à lui. Il y a une sorte de mouvement, de courant humaniste qui s'installe avec Darius, et à Persépolis, où Xerxès poursuit la politique de son père, il n'y a plus que des hommes. Il y a quelques monstres qui subsistent encore dans des embrasures de portes. Ils ont le poignard du Perse dans le ventre. La loi royale s'installe au moins à côté de la loi religieuse. Ça, c'est une transformation énorme. On n'a pas suffisamment... Que là, à Suse, parce qu'on
peut,
peut serrer les dates,
voilà.
On peut dire, voilà. Ce qu'il achève la construction du palais, toute la décoration change. On voit apparaître pour la première fois des hommes avec habits somptueux, bijoux, etc., tenant les symboles du pouvoir. On ne se bat pas, on ne garde pas avec tout son attirail et tous ses bijoux sur le dos. Non, non, je crois que ça ne pose pas de problème et qu'on peut reconnaître cette situation. Et à Persépolis, des quelques monstres, dans les rampes d'escalier, là, il y a un triangle qu'il est toujours difficile de meubler. Alors on a le...
On met un petit griffon.
On a le thème du lion sur le taureau qui est triangulaire, alors qui sert bien dans ces coins-là. Mais pour le reste, dans quelques embrasures de portes, il y a encore des monstres mythologiques, mais cette fois avec le poignard du Perse dans le ventre. C'est très intéressant, je crois. Ce que l'on peut tirer de l'architecture, on peut en tirer des inscriptions et de l'ornementation. Maintenant que c'est bien précisé, daté, bien que chronologiquement, géographiquement, on voit bien les choses, on peut en tirer des conclusions. Bon, alors là, bon, ne me demandez pas la couleur des yeux de Darius, je n'en sais rien, mais ce sont les questions qu'on me pose souvent, mais on n'en est pas là. Mais tout de même, on a fait avancer les choses, on a pu remettre à sa place M. Hérodote, qui raconte beaucoup de choses et qui n'a jamais pris la peine de vérifier. Donc on n'a pas besoin d'Hérodote, il ne nous aide en rien. Hérodote ne nous aide en rien en ce qui concerne les écrits bibliques, sont plus précis. Quand il parle de Suse, il dit sous l'eau, Shushan Abira, Suse, la citadelle. Ils savent que
c'est une
citadelle.
Donc c'est une place forte. Voilà, ils le savent, ils le disent.
C'est une citadelle. Au moins ça, de ce côté-là, c'est clair. On a pu montrer, justement, je crois que les fortifications sont claires. Darius le dit dans ses inscriptions. Lorsque je suis arrivé, les remparts de la ville étaient en ruine. Moi, j'ai construit des fortifications tout autres. Et en fait, il fait des glacis à la Vauban. C'est tout à fait étonnant pour la période, quoi.
On vous écouterait pendant des heures, Monsieur Perrault. On aurait encore bien des merveilles à découvrir. Donc, on ne saurait que conseiller à nos auditeurs de se procurer ce magnifique album qui est très gros, très lourd. Très technique aussi par endroits. D'autres endroits, il fait plus rêver, mais il y a aussi, il entre dans les détails. Enfin, je crois que c'est une somme, en tout cas sur ce palais de Suse, où pour l'instant, peut-être les touristes ne sont pas nombreux, mais peut-être, voilà, il n'y a pas grand-chose à y voir, oui. Mais donc, dans le livre, on voit tout, et avec vous, on aura tout entendu et rêvé un grand moment. Merci infiniment.
Merci
à vous. Et peut-être à une autre fois pour parler d'une autre période que celle-ci. Merci beaucoup.